Passion.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, comme tous les vendredis, vous pourrez commenter l'actualité de votre choix. Vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine, les sujets qui ne font pas forcément la une de la presse internationale, les sujets dont on n'a pas forcément débattu ensemble cette semaine. En tout cas, vous choisissez le contenu de l'émission. Pour ne rien vous cacher, vous êtes très nombreux ce matin à souhaiter réagir au report du référendum constitutionnel au Mali. Des réactions également sur la résolution des Nations Unies soutenant la force africaine anti-djihadiste, la force G5 Sahel, des appels sur les violences dans les Kasaï en République démocratique du Congo. On prendra d'ailleurs dans un instant une question après les tractations qui ont duré toute la semaine à Genève au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Des réactions également sur l'accord de paix conclu en Centrafrique, conclu lundi. Et dès le lendemain, dès mardi, les affrontements ont repris sur le terrain. Vous le voyez, les sujets ne manquent pas, donc appelez-nous, rejoignez-nous. 33 9 693 693 70. Mais d'abord, donc, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Binta Diagne, du service Afrique des RFI, est déjà installée. Bonjour Binta.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
On vous a demandé de venir dans ce studio puisque vous suivez ces affaires de détournement d'aide humanitaire au Nigeria. On en a parlé cette semaine, ce qui a suscité des questions standards. Christian, bonjour.
Bonjour Anne et bonjour à tous les auditeurs du monde.
Vous nous appelez de la République démocratique du Congo, vous êtes à Lubumbashi, nous vous écoutons.
50 convois alimentaires en direction du nord-est du Nigeria ont été détournés par Boko Haram. Comment sont organisés les convois d'aide humanitaire dans cette région sensible? Est-ce que les mesures de sécurité sont mises en place par le PAM pour éviter ces attaques?
Alors Binta Diagne, une partie de l'aide humanitaire destinée aux victimes de Boko Haram est détournée, les convois alimentaires sont régulièrement attaqués, c'était le cas il y a encore quelques jours. Concrètement, quelles sont les mesures prises? Alors notre auditeur cite le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, mais j'ai envie de dire plus largement les différentes ONG qui sont sur le terrain pour garantir justement la sécurité de ces convois.
Alors notre auditeur l'a dit, déjà c'est une région vraiment très sensible, hein, les régions de l'Adamawa, de Yobe et du Borno. Ce sont des régions dans lesquelles, selon plusieurs humanitaires à Maïdougouri, la situation est volatile, le conflit n'est pas fini, la région est instable. Bref, les superlatifs sur l'insécurité dans cette région sont nombreux. Et du coup, il a fallu mettre en place tout un système vraiment très sécurisé pour mener les aides alimentaires, en tout cas auprès des populations déplacées. Ce que j'ai pu voir, moi, sur place, en tout cas à Maïdougouri, c'est qu'il y a plusieurs Red Roof qui ont été mis en place par les Nations Unies. Ce sont des installations énormes dans lesquelles les Nations Unies permettent à toutes les organisations locales et internationales de venir poser leurs marchandises, mais aussi d'héberger certains humanitaires. Il y en a plusieurs dans ces trois états du nord-est du Nigeria. A priori, ce sont des installations qui sont sécurisées, mais aussi temporaires, pour éviter, si elles restent sur la longueur, d'être la cible des éléments de Boko Haram. Et c'est depuis ces organisations-là, depuis ces installations-là, que sont coordonnés les convois humanitaires. Donc c'est de là que, en fait, avant, ce qui se passait, c'est que souvent ces convois étaient organisés très régulièrement, enfin de manière espacée, chaque mois. Et ce qui se passait, c'est que souvent, les Boko Haram allaient dans les villages dans lesquels l'aide était distribuée, ils attaquaient et en fait, ils récupéraient directement l'aide sur place. Il a donc fallu rechanger tout ce système-là, faire des livraisons plus rapprochées pour éviter le risque de perdition et surtout de manière très courte. En fait, les humanitaires vont sur place et après, ils repartent. Après, ce que je sais, c'est que plusieurs humanitaires m'ont expliqué que principalement, ils privilégient la voie aérienne.
Donc les hélicoptères.
Ouais, en hélicoptère. Après, le problème, c'est que les marchandises, il faut les envoyer par convoi, par camion. Donc eux, ils prennent la route. Et c'est là que ça pose problème, en fait.
Et l'armée ne sécurise pas ces convois?
Si, bien sûr. L'armée sécurise ces convois, mais il y a toujours des problèmes. Là, cette semaine, il y a un gros convoi de 14 véhicules qui transportaient des militaires, mais aussi des personnes privées, des businessmen, qui a été attaqué. Mmh. Il y a eu deux policiers qui ont été qui sont morts. Le risque n'est pas impossible, même si ces convois sont sécurisés.
Mmh. Christian, je crois que vous avez une autre question.
D'accord. Que pourvoient les autorités nigériennes pour diminuer les risques de détournement de convois?
D'autant que la période de soudure a déjà commencé, Binta Diagne, c'est une période très sensible au cours de laquelle les besoins sont importants. Il faut donc combler les besoins des producteurs. Il faut quand même rappeler à nos auditeurs qu'il y a plus de 5 millions de personnes qui ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Le nord-est du Nigeria est même menacé de famine. Et cette période de soudure correspond avec le début des saisons des pluies. Donc plusieurs routes risquent d'être difficiles d'accès dans les prochaines semaines, voire même les prochains mois. Concrètement, que prévoient les autorités nigérianes?
Oui, vous l'avez dit, Juan, et surtout les menaces sont multiples. Hein. Donc il y a les attentats suicides, souvent des embuscades contre ces convois, et il y a le problème des mines dont on parle très peu. Alors le vice-président, le week-end dernier, Yemi Osinbajo, a annoncé que 656 policiers seront déployés dans ces zones-là, 1376 militaires aussi. Eux, c'est surtout pour sécuriser les convois et surtout les lieux de stockage. Le gouvernement voudrait, en plus de l'aide humanitaire délivrée par les ONG, donner 40 000 tonnes de nourriture, essentiellement du riz. Mmh. Et au total, il prévoit de débloquer 1 milliard de dollars. Mais c'est vraiment sur toute l'année, hein, pas seulement sur la saison des pluies. Hier, j'ai eu au téléphone un responsable humanitaire d'Action contre la faim, Yannick Pouchalan, qui me disait que c'était des mesures qui, effectivement, pour les humanitaires, étaient rassurantes. Le fait de savoir qu'il y aura plus de militaires, mais il était aussi un peu sceptique parce que c'est vraiment des zones qui sont très militarisées et c'est un côté qui semble durer depuis 8 ans que dure ce conflit-là, et du coup c'est un peu, il disait, le côté très militarisé de la région n'est pas très rassurant parce que du coup on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter.
Merci beaucoup Binta Diagne de toutes ces explications, merci d'être venu jusqu'à nous. Christian, bonne journée à Lubumbashi. 33 9 693 693 70. Bonjour Sonia Rollet, merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour.
Vous rentrez de Genève, vous avez suivi la 35e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, où les discussions ont été particulièrement difficiles. Il a été question des violences dans le Kasaï et de la mise en place d'une mission d'enquête internationale indépendante. On a suivi ces débats tout au long de la semaine grâce à vous qui étiez sur place. Ça a suscité évidemment des questions et des commentaires. Nous prendrons des réactions tout à l'heure dans la libre antenne. Des questions. Kelly, bonjour.
Bonjour, Angomé.
Bienvenue, vous êtes en République démocratique du Congo, nous vous écoutons.
Oui, Juan. L'ONU souhaite enquêter sur les violences au Kasaï, mais les autorités congolaises veulent bien garder la direction de cette enquête. Alors, ma question est de savoir, est-ce qu'une enquête internationale sur la direction des autorités congolaises est-elle envisageable?
Alors,
deuxième question, c'est que, quelles sont les prochaines étapes pour que cette mise en place de cette enquête internationale puisse aboutir?
Alors, Sénia, on replante un peu le décor. Il y a eu donc des discussions très tendues cette semaine. Les Nations Unies veulent qu'une mission d'enquête internationale indépendante soit déployée dans les Kasaï pour faire toute la lumière sur les massacres, les crimes qui sont commis depuis maintenant 10 mois. Il y a eu cette semaine à Genève deux camps qui se sont opposés.
Ah oui, ça fait même 2 ou 3 semaines que ces camps essaient de pousser pour que la résolution prenne la forme de ce qu'ils souhaitaient. Au milieu de tout ça, on avait le haut commissaire quand même qui est le personnage central, puisque lui, depuis le 8 mars, demande une commission d'enquête internationale sur le Kasaï. Une commission d'enquête, c'est ça l'enquête internationale dont parle l'auditeur, mm-hmm. qui est évidemment pas une enquête qui serait sous la direction du gouvernement congolais ou de la justice militaire congolaise en l'occurrence, mais qui serait plutôt une enquête qui serait ordonnée par le Conseil des droits de l'homme, avec des experts nommés qui auraient le mandat de pouvoir enquêter partout sur le territoire congolais, avec ou sans l'autorisation du gouvernement congolais. C'était un peu ça l'enjeu. Tous les projets qu'on a vus arriver sur la table à Genève n'étaient pas ce que souhaitait le haut-commissaire, puisque le projet européen était un projet de mission d'enquête internationale, très proche d'une commission d'enquête, mais pas avec le mot commission qui avait l'air de gêner le gouvernement depuis le départ.
Le gouvernement congolais.
Le gouvernement congolais. Et une proposition faite par les le groupe Afrique, ce qu'on appelle le groupe Afrique, les 13 États Afrique, porté par la Tunisie, qui, elle, était un projet d'assistance technique simple au gouvernement, ce qui était un peu ce qui se faisait déjà, puisque l'ONU assiste déjà à la justice militaire congolaise quand la justice militaire congolaise le demande et sur les cas les plus graves. Donc on était dans cette structure-là. Il se trouve que ces derniers jours, le blocage était complet. Les Européens ont décidé de retirer leur projet, de travailler avec le groupe Afrique sur un projet commun sur la base du texte du groupe Afrique d'assistance technique. Mmh. C'est sous ce point que tout à l'heure, un texte de résolution sera voté et d'essayer de quand même avoir ces experts internationaux auxquels ils tenaient et auxquels le haut-commissaire tient aussi, de pouvoir envoyer en fait des équipes sur place pour sécuriser les preuves, interroger les témoins, essayer de déterminer et de pouvoir aussi aider la justice militaire congolaise
donc,
à faire ça.
Donc, si je comprends bien, dans ce bras de fer, c'est le groupe Afrique et donc le gouvernement congolais, le gouvernement de Kinshasa, qui remporte, on va dire, la bataille, puisque la résolution qui sera votée cet après-midi ne prévoit pas, et ça c'est important de le préciser, d'être très clair, ne prévoit pas une mission d'enquête internationale, mais une assistance technique, et ça change beaucoup.
Une assistance technique avec l'envoi, la possibilité pour le commissaire d'envoyer des experts internationaux. Donc on est un peu sur une version hybride, qui est sous chapitre ou sous ordre du jour assistance technique, mais dans lequel effectivement il y a quand même ces experts internationaux sur lesquels les pays européens insistent parce qu'ils disent pour eux que c'est une résolution, notamment la Belgique dit que c'est très ambitieux, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans ce que souhaitait le haut-commissaire, à savoir une commission d'enquête internationale, et que là on va avoir un texte qui certes sera consensuel, mais sur lequel ce sera après il va falloir voir la mise en œuvre, et notamment si ces experts pourront travailler quand même sur le terrain, puisque le problème principal posé par le haut-commissaire, c'était le problème d'accès, d'accès aux victimes et d'accès au lieu.
Il y a des zones entières où l'ONU, la MONUSCO qui est déployée sur le terrain n'a pas accès.
Voilà, là clairement, en tout cas les enquêteurs civils de la MONUSCO n'arrivent pas à enquêter partout où ils le souhaitent.
Autre question, Kelly.
Oui, qu'est-ce que peut apporter cette enquête internationale par rapport à l'enquête que mènent les autorités congolaises?
Alors, effectivement, les autorités congolaises mènent des enquêtes en ce moment sur le terrain. Il y a même deux procès qui ont commencé. Les autorités congolaises qui mettent en avant la compétence de la justice nationale congolaise pour mener à bien ces enquêtes. Quelle différence entre les enquêtes en cours, menées par le gouvernement, et une éventuelle mission internationale indépendante?
Alors là, ça évidemment, ça changerait tout, puisque il y aurait un rapport qui serait fourni à la fin de cette commission d'enquête, qui pourrait servir après à avoir des suites judiciaires, et notamment à être transmis à la CPI ou à autre pour des suites judiciaires. Là, évidemment, c'est pas ce sur quoi on s'oriente. Là, c'est vraiment d'obtenir les informations. C'est ce que le haut commissaire souhaite avec ses experts internationaux qui seront envoyés dans le cadre de cette résolution d'assistance technique. Et puis, c'est aussi de suivre les procédures et de mettre un maximum de moyens à disposition de la justice militaire congolaise pour qu'elle puisse faire face à l'ampleur. En tout cas, c'est comme ça que les États, puisque c'est des États qui sont dans ce Conseil des droits de l'homme, ont souhaité résoudre cette situation.
Merci Sonia Rollet. Et pour comprendre cette crise dans les Kassai, je renvoie les auditeurs évidemment à la remarquable enquête que vous avez réalisée, un web documentaire en trois volets à retrouver sur RFI.fr avec des documents et des vidéos. 33 9 693 693 70. On va aborder maintenant un sujet bien plus léger. On va parler football. Alors je sais que c'est un sujet qui passionne et qui donne lieu souvent à des débats très très animés. En l'occurrence, le sujet que nous allons aborder, la vidéo. Bonjour Patrick.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Libreville, au Gabon, nous vous écoutons.
À Port-Gentil, Juan.
À Port-Gentil, autant pour moi, j'avais Libreville sur ma petite fiche, je ne fais que lire ce que le standard me renvoie, mais enfin vous êtes quand même au Gabon, on vous écoute.
Oui, Juan, bonjour à toute l'équipe qui vous accompagne. Bonjour aussi à l'équipe des cafés des sports d'Annie Gassmi.
Ah, très bien.
Juan, ma question est l'arbitrage vidéo a été instauré pour cette compétition en Russie. Peut-on s'attendre qu'elle soit effective pour la Coupe du Monde en 2018, Juan?
Alors, Hugo Moissonnier, qu'on retrouve régulièrement au Café des Sports aux côtés d'Annie Gasnier, il est avec nous ce matin. Bonjour Hugo.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
L'assistance vidéo à l'arbitrage, la vidéo est effectivement testée en grandeur nature pendant la Coupe des Confédérations qui se déroule en ce moment même en Russie. D'abord, précisons, c'est un test, hein, on teste encore l'outil.
Tout à fait. Pour que ce soit effectif lors de la Coupe du Monde 2018, il faut que le gouvernement de l'arbitrage, qu'on appelle le board de la FIFA, entérine l'assistance à l'arbitrage, l'assistance vidéo à l'arbitrage dans les règlements, et ça se passera pas avant mars 2018. Mais effectivement, on est dans une phase de test. C'est pas la seule, la Coupe des Confédérations, puisqu'il y a eu le Mondial des clubs, une autre compétition FIFA l'hiver dernier. Il y a eu également la Coupe du Monde des moins de 20 ans. C'était il y a quelques semaines. Donc effectivement, on est dans des phases de test grandeur nature. Et évidemment, le but c'est d'arriver à mettre en place la vidéo. C'est en tout cas la volonté du président de la FIFA, Gianni Infantino. Mettre en place l'arbitrage vidéo lors de la Coupe du Monde, qui est la grande messe du football.
Bien sûr, vous nous rappelez le règlement, parce qu'on va pas pouvoir utiliser, les arbitres ne pourront pas utiliser la vidéo quand ils le veulent. Il y a bien un règlement strict.
Alors déjà, les cas de figure sont limités, il y en a que 4. Alors je vais déjà rappeler que c'est l'arbitre central qui sollicite les arbitres vidéo, qui sont à l'extérieur du stade et qui ont l'assistance vidéo. C'est pas l'inverse. C'est l'arbitre central qui décide lui-même d'utiliser ou pas la vidéo. 4 cas de figure: en cas de carte rouge directe, en cas de doute sur l'identité d'un joueur sanctionné, en cas de situation litigieuse dans la surface, en gros, en cas de situation de penalty, et enfin, on peut utiliser la vidéo pour valider ou pas un but. Alors là, c'est le cas le plus problématique, c'est celui qui a posé le plus de questions jusqu'ici, puisque on a vu des buts refusés puis acceptés, des buts fêtés par les joueurs puis en fait annulés, donc les joueurs avaient l'air un petit peu bêtes. Bref, oui. Des situations confuses.
Quand vous dites que les joueurs ont l'air un peu bêtes, faut quand même dire aux auditeurs qu'effectivement, bon, le joueur inscrit un but, il est validé dans un premier temps, toute l'équipe fait la fête, il saute, etc. Mais pendant ce temps-là, on regarde la vidéo, donc il se passe bien 30 à 40 secondes avant que les images soient totalement visionnées et que l'arbitre prenne une décision finale.
C'est une période de flottement qui est assez inédite, puisque avant, ce qui se passait, c'est qu'en gros, il y avait un but, il était rapidement validé ou refusé par l'arbitre, la réaction derrière était spontanée, soit on explosait de joie, on en a vu à des images d'explosion de joie, soit on tire un peu la tronche, pardonnez-moi l'expression, si jamais le but était refusé. Là, on peut avoir une période de flottement avec des joueurs et des supporters privés d'images sur les écrans qui ne savent pas forcément de quoi il en retourne, et donc ça donne un moment de flottement un petit peu étrange et assez inédit, et qui casse un peu le rythme. Et c'est ça qui est dommage, parce que dans le football, le rythme, c'est très très important.
Ouais, pendant que les arbitres visionnent les images, le public présent dans le stade, lui, n'a pas le droit à ces images-là. Elles ne sont pas diffusées sur grand écran. Quel bilan peut-on dresser jusqu'à présent, Hugo Moissonnier, des différents tests?
Alors, justement, ces flottements après but, c'est un petit peu pour l'instant le point noir. Il y a un autre souci, mais ça, on s'en doutait, on l'avait anticipé, c'est que certaines situations, vous pouvez utiliser la vidéo, ça changera pas grand chose, c'est-à-dire que ce sera toujours aussi confus et toujours aussi difficile il sera toujours aussi difficile d'arbitrer ces situations-là. Donc ça, c'est un véritable souci. L'autre bilan, c'est que on peut avoir tendance à penser que les arbitres vont ouvrir le parapluie, c'est-à-dire avoir tendance à demander la vidéo pour se couvrir un peu à chaque fois, même quand c'est pas forcément très utile. On l'a vu lors de la Coupe des Confédérations, justement, des buts qui paraissaient tout à fait valables avec l'arbitre qui demande quand même la vidéo, et donc on risque de, si jamais on met pas de garde-fou, on met pas en place des garde-fous, d'avoir beaucoup d'interruptions et encore une fois de hacher le jeu, alors que c'est pas du tout la force du football. La force du football, justement, c'est que le jeu est très peu souvent interrompu.
Alors, en 45 secondes, dites-nous, Hugo Moissonnier, pensez-vous que la FIFA adoptera la vidéo lors de la prochaine Coupe du Monde en Russie en 2018?
Alors, sauf catastrophe, ça paraît fait à 99,9%, puisque de toute façon c'était la volonté du nouveau président
Gianni Infantino, qui lui-même, l'assistance vidéo, c'est l'avenir du football moderne.
C'est assez clair, pour lui c'est une satisfaction totale. Il y a des choses à améliorer, mais pour lui ça ne fait aucun doute, il y aura la vidéo, c'est l'une de ses grandes réformes, si ce n'est sa grande réforme, avec l'extension de la Coupe du Monde. C'est vraiment, faut lui reconnaître que c'est un changement un peu de paradigme, comme on dit, dans l'arbitrage, pour l'arbitrage du football. Il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, mais voilà, manifestement, lui, il a fait son choix et c'est en marche.
Et il est pour. Êtes-vous pour ou contre la vidéo dans le football? Vous avez envie de prendre la parole? Eh bien, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Nous pouvons en parler tout à l'heure dans la libre antenne. Patrick, on a répondu à votre question?
Merci, Juan Gomez, merci.
Et bonne journée, donc, à Port-Gentil. À bientôt, Hugo Moissonnier. Il sera 10h30 dans quelques secondes ici à Paris, l'heure de retrouver la rédaction, et on revient dans 10 minutes pour la libre antenne.